France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule avec tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Le film démarre sur un faux accouchement très drôle et se termine sur un autre plus symbolique, la naissance, ou plutôt la renaissance d'une amitié. Et ce film est en haut de notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Deux amis, 20 ans à peine, partent encadrer dans la Drôme une colonie d'enfants du 20e à Paris. L'occasion de raconter ces enfants loin des clichés et ces deux filles vers l'âge adulte. Bonjour Lisa Coca.
Bonjour.
Bonjour Romane Guéret.
Bonjour.
Réalisatrice de ce film, Ma Frère, tout y sonne juste, le langage comme l'urgence d'exister et comme l'amitié qui relie vos deux interprètes. Et pour de vrai, l'une des deux est avec nous ce matin. Bonjour Gérèle Nataf.
Bonjour.
Vous êtes shy, qu'il ploie sous les injonctions familiales et religieuses. Et enfin, la lumière de cette histoire. Bonjour Amel Bent.
Oh, bonjour.
Vous êtes Sabrina qui dirige cette colonie, une mère, une sœur, une amie et une sacrée comédienne. Ma Frère est sortie mercredi. Enfin, les autres films de la semaine, Les Échos du passé aux lumières de New York, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je crois qu'on se baigne dans cette rivière.
Si vous êtes calme, moi.
On est calme.
Si vous êtes calme, moi.
On est calme.
On pose les affaires là, on fait un tas de sacs.
Allez, en avance, les enfants. Allez, au fond, au fond. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mon grand? Ça va aller, pourquoi tu pleures? Hé, Dani, tu vas te faire plein de copains.
Mais moi, c'est mort, je me mets avec Anouk et Mathéo. Hein.
Ah ouais, je vais mater avec lui.
Pourquoi tu dis ça devant lui?
Il y a quoi le problème? S'il y a pas de problème.
Avec le argument, là.
Et moi, je me mets avec Mathéo et Anouk. C'est clair.
Elle est bouche, Reggie. Moi, je me mets avec Mathéo, il prend un final.
Des enfants qui ont grandi entre les tours de la place des Fêtes à Paris, dans les paysages de la Drôme, le temps d'une colonie, encadrés notamment par Chai et Geneba, deux amis d'enfance issus aussi de ce quartier. Et à l'aube de l'âge adulte, c'est Ma Frère, Lisa Coca et Romane Guéret, déjà auteurs du film Les Pires en 2022, en terre inconnue donc, avec l'enfance, les jeunes des quartiers, et tous les clichés qui y sont attachés. Et finalement, question à toutes les deux, l'idée de décaler le regard des gens sur eux.
Oui.
Lise.
Ouais, on essaye en tout cas de proposer un peu un regard différent, d'orienter le regard différemment sur tous ces enfants et ces grands-enfants. Et voilà, donner à voir, mettre en lumière en tout cas deux héroïnes féminines puissantes, des personnes racisées, des corps différents, des minorités de genre. C'est une façon d'essayer d'œuvrer pour un peu désosser ces stéréotypes qui sont bien, bien installés.
Et également décaler l'expression « mon frère à ma frère », une expression non genrée.
Non genrée, ouais.
C'était important qu'elles se sont appropriées, qu'elles se sont appropriées du patriarcat.
Prise de pouvoir féminine, c'est vrai, sur cette expression qui est normalement au masculin. Et Chirelle et Fonda, donc les deux héroïnes de ce film, s'appelaient comme ça parfois, et on s'en est saisi parce qu'on trouvait que c'était ça parlait merveilleusement du film, puisque c'est un film qui parle d'une amitié fraternelle ouais, féminine, et qui est aussi un film sur le langage et sur la façon dont le langage est un outil redoutable pour faire changer aussi ses représentations.
Vous employez Ma Frère, Abel? Amel Bent.
Oh oui, oui. Moi, j'ai l'oreille musicale. Hein. Je me fonds selon les endroits où je me trouve.
Caméléon.
Caméléon, et puis je trouve que c'est une façon de tisser du lien, effectivement, le langage. Bah, c'est pour ça que je fais de la musique, c'est ouais, pour moi un langage qui permet vraiment, même quand on vient pas du même endroit, tout de suite de se raccrocher à ce qu'il y a de plus essentiel en chacun de nous. Et le langage parlé, évidemment, quand on parle un peu le langage des autres, on se rapproche d'eux, et c'est une forme de respect aussi.
Dans un espace circonscrit, Romane Guéret, une colonie ailleurs, loin du regard des autres finalement, mais c'est un super lieu comme un tournage. Vous aimez bien les espaces circonscrits avec un tournage. Et là, c'est un super lieu de fantaisie, de dramaturgie, de rire et de larmes. Il y a tout, en fait, dans un lieu pareil.
Ouais, et puis c'est un espace très particulier où effectivement on peut échapper au regard adulte, en tout cas celui qu'on connaît, nos parents, l'école, c'est une façon de réussir à proposer d'être quelqu'un d'autre, à avoir le droit de se métamorphoser, de mentir, de devenir quelqu'un qu'on rêve d'être. Bon voilà, et puis il y a ce rapport aux autres et la collectivité qui est vraiment un sujet fort dans le film. Nous, on croit beaucoup en ça et les liens, et on avait envie de faire un film humaniste aussi, qui parle des relations les uns avec les autres.
C'est à commencer avec la série Tu préfères. Chirelle, vous y étiez. Comment ça se passait à l'époque? Donc, vous jouiez quoi dans cette série?
Bah, on est une bande d'adolescents, de quatre adolescents qui...
Vous aviez quel âge quand vous avez commencé avec cette série? 11 ans?
Non, 16 ans.
16 ans.
Ouais, 16 ans.
Mais vous les connaissiez avant?
On les a rencontrées quand elles avaient 11 ans et on les a regardées grandir pendant 10 ans. Et quand elles avaient 16 ans, on a fait ce premier projet ensemble, Tu préfères.
Avec l'idée de les prendre plus tard. Pourquoi dès 11 ans, c'est fou quand même, non?
En fait, non, c'est simplement que moi, j'étais coach enfant sur un film où elles jouaient toutes les deux parce qu'elles avaient été repérées à l'issue d'un casting sauvage dans leur quartier pour jouer dans ce film. Et on s'est liés d'amour On a eu envie avec Romane, quand elles ont eu 15-16 ans, de leur écrire une belle partition pour raconter toute leur intelligence, leur beauté, leur tchatch.
Alors, on va pas écouter Tu préfères, parce que c'était un petit jeu, mais que vous avez repris dans le film. A priori, c'est futile, mais ça raconte beaucoup de choses.
Hey, tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé?
Moi.
Ah, je vais dans le passé.
Moi.
On va faire Peppa Pig avec mon bol de chocolat au lait.
Moi. Je ne connais pas Dora.
Moi dans le passé, moi. Je pourrais revoir des gens qui sont morts, par exemple. Ça, j'aimerais bien. Ça me fera plaisir.
Pourquoi?
Ça me fait plaisir.
Aussi, dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça.
Tu préfères la famille ou les amis?
Ni l'un ni l'autre, peut-être.
C'est mort.
Oui, Rihanna.
Mais moi, je préfère ma famille.
Pourquoi?
Bah, parce que j'ai pas d'amis.
Mais quoi? Aussi la famille.
Je préfère les amis, parce que les amis, quand tu grandis, c'est comme... C'est comme une nouvelle famille que tu te constitues, tu vois, et que tu choisis.
La mort déjà présente, hein, Lisa Coca, quand même, dans les conversations de ses enfants.
Ouais, c'est un film qui est... Bon, c'est une comédie, mais c'est vrai qu'on essaye quand même d'inscrire des sujets aussi assez... profond, philosophique.
Mais c'est leur préoccupation, de ceux que vous avez rencontrés aussi. Ça
ouais,
vient
ouais,
pas
bien
nulle
sûr.
Part.
Bien sûr, c'est l'écriture de ce film, elle naît aussi de très longues périodes d'immersion à côtoyer des centaines et des centaines d'enfants qui nous inspirent, qui inspirent le langage, mais aussi les personnages et aussi l'histoire de ce film. Et c'est vrai que c'est né de nos observations et que ouais, la mort, la peur, c'est déjà des sujets très très forts, très ancrés à cet âge-là. Et c'est un sujet qui traverse le film à plein de moments, mais notamment à travers le jeu aussi. Il s'en empare dans le jeu, puisque bah, le jeu, quand on est enfant, c'est une façon de pouvoir intégrer le monde adulte et apprivoiser un peu son environnement. Quoi.
Ça vous a surpris, Amel Bent, cette notion très grave de mort dans la bouche d'un petit garçon?
Ça m'a surtout bouleversée, ça m'a émue. C'est pour ça que le film, j'en suis à 5 visionnages, je pourrais le voir 100 fois, parce que j'ai vraiment l'impression à chaque fois qu'on répare l'enfant que j'étais aussi. Ces questions-là, on se les est tous posées. Moi, la mort, c'est quelque chose, enfant, qui me faisait très peur, le temps qui passe. Et c'est comme si on n'avait jamais vraiment... C'est comme si on avait négligé mes angoisses d'enfant. J'avais l'impression que les adultes se fichaient un peu, finalement. Oh, c'est une enfant, elle comprendra plus tard. Et on n'a pas répondu à mes angoisses quand j'étais petite. Et là, de poser ces questions-là à travers ce film, je trouve que c'est rendre justice aussi à, bah, parfois, à tous ces gamins qui sont déjà en avance et qui ont besoin de répondre à des questions existentielles.
D'autant vraiment. Que vous êtes arrivé avec un deuil sur ce tournage.
Ouais. L'émotion vient aussi de là, hein. Ça tisse des... Il y a des connexions qui se font avec la réalité de ce qu'on est quand on arrive sur ce tournage.
Ouais. 1500 enfants au départ, 20 à l'arrivée, il fallait créer une vraie colonie de vacances. Comment on les choisit ? Parce que c'est votre spécialité, bien sûr, à toutes les deux, mais voilà. Il faut créer des identités, comme une famille.
Ouais, alors le scénario il est écrit quand on part en casting, donc on a déjà les récits, les personnages des enfants, et il est d'ailleurs très écrit, et ensuite il va venir se confronter à ce casting, et donc la dernière...
Donc il est déconstruit.
Oui, après. Enfin non, parce que en fait c'est juste que dans leur bouche, avec leurs mots, on va un peu leur proposer de changer s'il y a quelques mots ou quelques formulations dans lesquelles ils se sentent pas à l'aise. Mais en fait, ils vont déjà faire un vrai travail d'acteur, de comédien, d'actrice, comédienne, et apprendre le texte. Et donc on commence par des castings ouverts où on voit beaucoup d'enfants, et donc là c'est plutôt des improvisations dirigées. On est avec Marlène Serrour, notre super directrice.
Oui, il faut parler d'elle. Ouais.
Qui a fait un an de travail. C'est énorme, c'est beaucoup. Enfin, voilà. En général, c'est moitié moins sur les films. Donc, on savait que c'était un gros, c'était un gros pôle, un gros moment pour nous, le casting. Et donc, elle part un an, et nous, on la retrouve assez vite parce qu'on va faire Entonnoir et on va aller voir des groupes d'enfants de plus en plus resserrés et jusqu'à choisir nos 20 petites pépites avec qui on part à l'aventure.
C'était comment avec ces 20 petites pépites, Chirelle ?
C'était intense, très intense, mais incroyable. Parce que je pense qu'en voyant tous ces enfants, on s'est beaucoup reconnus en eux quand on était petits. Enfin, tout ce mélange-là, donc c'était incroyable. Mais c'est vrai que c'était intense parce qu'ils ont une énorme énergie qui ne s'arrête jamais.
Ouais.
Mais par contre, j'ai quelque chose à dire, c'est que sur le tournage, ils avaient une énergie énorme. Ils étaient beaucoup dans l'excitation. Mais quand il fallait tourner et dire action, c'était comme des professionnels. Parce que moi, à leur âge, enfin, un peu plus âgé, à 11 ans, j'étais pas aussi sérieuse que ça.
Ouais. Vous avez senti ça aussi, Amel, cette énergie contrôlée, finalement ?
Ah oui, je les ai trouvés vraiment, comme me dit Chirelle, très très pro. Moi, j'étais en admiration de la façon dont ils switchaient, de leur petit moment de colo réel sur place,
ouais.
Où ils étaient vraiment des enfants. Et puis le action, et là, le texte, et puis tout, l'intention. Et ce que je retiens surtout, c'est toute la tendresse qu'ils nous ont donnée tout du long. Quoi.
Vous aviez des oreillettes ?
Oui.
C'est-à-dire que les deux réalisatrices vous parlaient dans l'oreille ?
Bah, c'était plus pour la direction, pour se laisser aller, surtout, pour éviter de se voir, se contrôler, et plus être dans le jeu à l'instant, dans l'instant T, quoi.
Ouais.
Donc c'était bien.
Vous êtes l'oreille gauche, vous êtes l'oreille droite, comment ça se passe ? Parce qu'à deux, c'est un compliqué, non ?
On est toutes les deux dans leurs oreilles. Non, on est toutes les deux, ouais.
On va écouter une réunion avec les animateurs le soir qui font le point.
Je le connais bien, moi, le petit Guillaume, hein, depuis longtemps. Elle, il est passé par toutes les couleurs, lui. Foyer, éduc, il a fait plusieurs familles d'accueil.
Ah bon ?
Et en vrai, il va beaucoup mieux. Vous l'avez pas vu avant, c'était une catastrophe. Là, depuis quelques mois, il est hyper attaché à sa nouvelle famille d'accueil. C'est franchement des gens super, ça lui fait du bien. Donc, en vrai, pas de panique le concernant, il est sur la bonne voie, faites-moi confiance. Chai, c'était comment pour toi ?
Moi, rien de spécial, bonne journée. Enfin si, j'ai un ragoût de fou. J'ai parlé avec Mathéo et il kiffe pas trop sa relation avec Yasmine. Elle fait la forceuse un peu, hein. Il sent mal de l'embrasser, de lui faire des câlins, tout ça. Mais moi, je pensais que c'était lui qui était à fond. Il avait l'air de la kiffer depuis le début. Mais il sent violé, en gros.
T'es sérieuse ou tu fais une blague ?
Comment ça ?
Je sais pas, faut peut-être qu'on en discute avec lui, non ?
Non, mais c'est bon, j'ai déjà discuté longtemps avec eux, c'est l'histoire de gamin, en fait.
Je vais leur parler avec Naël. Mais en attendant, essayez de pas laisser les enfants seuls sans le regard d'un adulte.
Mais ça, on va pas se prendre la tête là-dessus toute la soirée, si ?
Bah, si, justement, on va se prendre la tête. Parce que c'est pas mal, parfois, de se prendre un peu la tête. De réfléchir.
Bon, c'est la première fois que je regrette qu'on ait pas une caméra, parce que Chirelle a fait le lipstick de tout. Vous vous souvenez par cœur de cette scène, Chirelle ?
Enfin, pas par cœur, mais je me souviens de toutes les scènes.
Ah ouais ?
Ouais.
cette scène particulièrement parce qu'elle était
ah ouais.
marrante.
Puis, ils sont au 10e visionnage quand même. Hein. C'est la fin de.
On n'arrête pas de tourner.
Elle est un peu irresponsable aussi.
Ah, mais complètement. Enfin, ouais. Chirel, moi.
Oui.
Non, pardon.
Non,
le personnage.
Non, votre personnage.
Ouais, confond pas.
Elle est complètement immature.
Complètement. Surtout.
C'est une fille qui est très décrochée, elle n'est pas du tout responsable, immature, mais à la fois très attachante.
Elle pense qu'à l'amour ?
Qu'à l'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour elle.
Et elle reçoit des pressions familiales énormes, quand
ouais.
même.
Voilà, une pression énorme vis-à-vis de sa famille, surtout de son frère, son ouais. grand frère, avec qui elle doit mentir, de cacher qui elle aime, qui elle est, en fait. Donc, ouais, c'est quand même très dur, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles qui le vivent. Surtout maintenant, quoi, que tout ce qui se passe, la génération de maintenant, tous les conflits, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans ce personnage-là.
Vous en connaissez pas mal ?
J'en connais, ouais. Ouais, très proche de moi.
Très proche de vous. Et il faudrait qu'elles aillent voir ce film.
Ouais.
Amel Bent, vous dites que ce rôle est très proche. Vous étiez en colo de 3 à 17 ans.
Ah oui.
Et vous avez retrouvé cette... C'était comme un bain de jouvence, en fait, ce
Exactement.
Film.
Exactement. C'est vivifiant, c'est, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais je suis arrivée, je venais de vivre un drame familial et ouais. je me sentais vraiment assez vide. Et quelle joie de pouvoir repartir de là remplie, mais remplie de eux, de ça, de cette aventure-là précisément.
Vous pensez que vous avez eu plus de chance qu'elle et eux, petite ?
Ah bah, ma frère me fait me questionner. J'avais un regard sur la nouvelle génération, ces enfants-là, qui sont plus grands que mes enfants à moi. Donc c'est un peu la génération entre mes enfants et moi. Donc je la connais pas bien, cette génération. Et souvent, parfois j'ai de la peine, parfois j'ai de l'inquiétude pour cette génération-là. Parfois je me dis, nous, c'était mieux. Ben, comme tous les gens qui vieillissent, hein, on dit c'était mieux avant. On veut pas le dire, mais on finit par le dire un jour. Et ma frère m'a fait me questionner. Rencontrer ces enfants-là m'a fait me questionner. Me dire, est-ce que c'est pas juste... un autre monde que eux ont appréhendé et eux savent dompter ce monde dans lequel ils vivent, comme nous à notre époque et comme les suivants après eux. Et donc je suis ressortie de là avec moins de certitude et encore plus de tendresse et d'amour et d'admiration pour ces gamins.
En revanche, par rapport à ces deux filles là qui vont connaître quand même, c'est comme un passage à l'âge adulte. On le répète, mais vous à 19 ans. Vous êtes projeté dans l'âge adulte avec votre premier tube.
Ouais.
Vous n'avez pas vécu vraiment ça, quoi.
J'ai pas eu la vingtaine insouciante, la bohème. Non, j'étais déjà très responsable à 19, 18 ans. Mais déjà, moi, j'étais une enfant adulte, donc j'ai...
C'est-à-dire ?
on va vraiment ouvrir cette
oui.
boîte. Non, j'étais une enfant très concernée. Après, ça, c'est le récit des uns et des autres. Moi j'ai été une enfant, une maman qui a beaucoup communiqué avec moi. C'est sa réalité de femme, de mère et ses galères, etc. Donc, très, très vite, j'ai été très responsable, bien avant de rentrer dans le monde du travail ou de prendre mon destin en main. J'avais déjà quelque chose de très grave et de très... J'étais une enfant inquiète, donc déjà un peu une adulte. Parce que l'inquiétude, c'est un truc d'adulte. Voilà. Mais c'est bien de... Du coup, j'ai l'impression de vivre une enfance après. De temps en temps, j'ai un morceau de vie qui devient une vie d'enfant, alors que je suis plus du tout une enfant dans l'âge.
Romane Elise, elle a l'air évidente pour ce rôle, mais pourquoi vous l'avez choisie, elle ?
On l'a choisie parce que elle nous semblait avoir tout de Sabrina dans ce qu'on connaissait d'elle médiatiquement, puisqu'on la connaissait pas personnellement,
ouais.
qu'on l'adorait en tant que chanteuse depuis toujours, et que quand on a écrit le rôle de Sabrina, on pensait pas à quelqu'un en particulier, mais quand il a fallu se poser la question du casting, quand cette idée d'Amel nous a traversé, on a bondi comme une évidence, quand on s'est dit mais c'est tellement elle, sa tchatch, son physique, son énergie, c'est tellement ce qu'on imaginait de ce personnage. Mais cela dit, on a vu d'autres actrices et non-actrices pour ce rôle, hein. On lui a fait passer des essais
Ah oui.
Comme à tout un chacun.
Ça faisait trop flipper.
C'était quoi comme, c'était quelle scène par exemple ?
J'avais la scène de l'embauche de Shai.
Ouais. Qui est une sacrée scène.
En fait, elles m'ont donné les deux scènes les plus difficiles en fait à travailler. Je pense qu'elles voulaient savoir tout de suite si j'étais capable de relever le défi. Elles m'ont vraiment pas donné des scènes faciles. Et la scène avec Fanta sur la maltraitance de sa mère. Ouais. Donc franchement, j'ai dit waouh. Ok, d'accord. C'est donc avec ça que je vais voir les réalisatrices. Et puis je me suis mise au boulot. J'embrasse Karine Nuris qui pour le coup m'a moins coachée que quand j'avais fait mon téléfilm, parce qu'elle m'a dit franchement elles ont la vision, parce que en fait j'ai l'impression que ce rôle te ressemble quand même vachement. Elle m'a dit sois toi-même. Il y a un truc d'évident chez Sabrina qui me rappelle vraiment toi. Donc elle m'a dit fais-toi confiance. Et j'ai quand même bossé, mais franchement j'ai eu peur.
Je suis toujours fasciné par les chanteurs-chanteuses qui peuvent être acteurs. C'est pas la même chose.
C'est pas le même métier du tout, franchement. Rien à voir.
C'est pour ça qu'on on avait une certaine inquiétude, parce qu'on avait projeté, on avait mis beaucoup d'espoir dans cette idée, et on s'est dit mais en même temps, si Amel... Oui, c'est un pari, parce qu'on ne l'avait jamais vu jouer, donc, et en fait, elle avait quelque chose, et aussi je dois dire, elle est très très drôle, et donc ça c'est quelque chose, je pense que tu t'es permise aussi d'être sur le film, le tournage, avec le rôle de Sabrina, permise, et nous on s'en est rendu compte tout de suite, ok. Et en plus, on a travaillé une heure, je pense,
ouais.
Et la progression était incroyable. Mmh. Et je pense que c'est lié aussi à... Enfin, t'as une faculté à t'auto-diriger en tant que chanteuse, tu te mets en scène et tout ça, donc il y a quelque chose... Il y a quand même une oreille, et c'était une éponge, vraiment. Tout allait très vite. Et là, on s'est dit, on a notre Sabrina, c'est trop bien.
Ouais, mais elles m'ont pas dit tout de suite. Elles m'ont laissé repartir avec l'angoisse. J'ai pas pu dire à mon agent si ça s'était bien passé. Elle m'a dit à l'heure, je dis... Aucune idée, elles m'ont rien montré.
Nous, si je suis hyper honnête, on était avec Judith Chalier et on s'est serré dans les bras quand t'es partie.
Toi, c'est fou. Vous auriez pu le faire quand j'étais là. Hein. J'aurais moins rongé mes ongles.
Mais en fait, tout le monde est frais sur ce plateau. C'est vrai, entre Amel Bent, qui n'a pas énormément joué, entre ses enfants qui démarrent, entre ses deux filles. Est-ce que, du coup, est-ce qu'on se sent, Chérelle, au même niveau de tout le monde?
Clairement.
Mais oui.
Ouais, on se sent au même niveau. Et puis moi, il y avait un petit truc que je voulais dire sur Amel. C'est que quand je l'ai vu la première fois, moi j'avais beaucoup d'a priori sur Amel, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de notoriété. Je ne savais pas si elle allait être autant spontanée, naturelle, qui allait parler avec nous, qui allait peut-être se confier à nous, qu'on pouvait se confier à elle. Donc j'avais beaucoup d'a priori quand j'ai su que c'était Amel Bent qui était pris. Et quand je l'ai vu pour la première fois en répétition, on répétait notre première scène du coup de l'embauche de Chai. En fait, c'était complètement une autre personne de la femme que je connais à travers sa vocation de chanteuse. C'est-à-dire que elle était très stressée, très tendue. Elle voulait très très bien faire. Elle me posait des questions alors que moi-même, je savais des fois pas quoi répondre. Et en fait, quand je l'ai vue jouer, elle était incroyable. Ça s'est directement passé quoi.
Moi, c'est trop mignonne, franchement.
Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai.
Qu'est-ce qui fait que vous aimez ce métier, Chérelle? Qu'est-ce que...
Ce que j'aime, c'est que déjà, quand je suis sur un tournage, je m'oublie. Mm-hmm. C'est-à-dire que je me permets d'avoir des émotions que j'ai peut-être pas forcément dans la vraie vie. Mm-hmm. Ça me permet de réparer aussi pas mal de blessures qu'il y a en moi, surtout pour le rôle de Chai. Et j'adore faire des personnages, de jouer, d'apprendre, de... Tout ce système en fait du cinéma, c'est quelque chose qui...
Chérelle, c'est vraiment une actrice née. Ah ouais. C'est vraiment ces petits mystères de... Tu sais pas d'où ça vient, elle a grandi dans un monde où le cinéma n'existait pas du tout. Et c'est vraiment là... Elle se libère totalement quand elle joue et tout. Et ça, en fait, il y a un plaisir, une jouissance à jouer qui est assez folle. Et d'ailleurs, dès qu'elle avait un jour off sur le plateau, elle était dégoûtée. Elle n'avait qu'une chose, c'est de revenir sur le tournage. Elle ne savait pas quoi faire de ses journées.
Mais elle ne vous fait pas penser à une actrice des pires qui est devenue actrice?
On nous le dit souvent, en tout cas.
On nous le dit souvent. Bon, il y a certainement une filiation. Il y a peut-être... mais en fait... moi, les connaissant toutes les deux, je les trouve très différentes aussi. En tout cas, ce qu'elles ont en commun, effectivement, c'est peut-être d'avoir été ces deux petites filles pas très bonnes à l'école, qu'on mettait un peu au fond de la classe, qui avaient du mal à apprendre leur poésie. Et en fait, qui aujourd'hui...
On parle de...
De Malo.
De Malo Riwanek.
Ouais.
Qui aujourd'hui réussissent à trouver la fierté dans quelque chose qu'elles se sentent capables de faire. Et en fait, ça, c'est hyper beau. Et nous, on croit beaucoup au casting sauvage pour ça.
C'était important d'être proche de cette Chai pour l'incarner?
important, non, parce que je pense que quand t'es comédienne, tu peux te permettre de jouer n'importe quel rôle.
Vous êtes plus mature qu'elle, hein, de toute façon, donc c'est presque un contre-emploi.
Maintenant, un peu plus mature, mais c'est vrai que quelques années avant, j'étais la même, exactement la
donc
même
vous avez
que
Chahi. Dans votre
c'est quand même beaucoup inspiré d'elle pour écrire.
Ouais. Ils se sont beaucoup inspirés de notre personnalité à Fanta et moi, donc c'est des personnages qu'on connaît parce qu'on était les mêmes, en fait. Chahi Djenéba, c'est Fanta et Shirelle. Donc non, ça n'a pas été compliqué, ça a été justement... plus facile de s'approprier le rôle de Chahi, du coup.
Elles sont proches de vous, ces deux filles, de vous plus jeunes ou pas?
Ouais, elles sont proches de nous plus jeunes. Elles sont à la fois... c'est à la fois un peu nos alter-ego et en même temps nos étrangères. Parce que y a plein de choses qui nous lient et évidemment, à travers ces deux personnages, on se raconte aussi, Romane et moi, on est deux jeunes femmes passées, il n'y a pas si longtemps, à l'âge adulte. Et voilà, et donc c'est aussi un peu nos... Et puis nos histoires d'amitié fortes, fusionnelles, quand on était plus jeunes, qu'on a dû un peu défaire et reconstruire et réinventer. Et après, on n'a pas non plus eu tout à fait la même enfance, les mêmes problématiques. Et donc on est à la fois proches et différentes.
Ouais. Elle n'est pas là, mais on va écouter un extrait avec elle, avec Fanta Québec, qui raconte un peu sa condition, son passé, ses études.
J'avais des bonnes notes, je suis allée à la fac de lettres. On m'a dit, c'est bien, tu fais des études. Là, j'étais déter. Mais wesh, il n'y avait que des babtous archi entourés. Personne ne me parlait. Et la panoplie de livres qu'il fallait acheter, un brave RER et tout, c'était archi loin. Moi, je travaillais de nuit. C'est pas une vie, frère. Ouais, je pouvais pas suivre, c'est réel. Et après, on a le toupet de venir me dire qu'il suffit juste de volonté, nanani, nanana. Mais c'est une vaste supercherie, en fait. Et ma mère, on lui coupe le clito quand elle est minot. Et tu crois qu'après ça, tu vas siffloter tous les jours, tu vas être légère dans la vie, tu vas réussir à donner des bonnes ondes à tes propres enfants?
Vas-y, tu confonds tout, là, en fait.
Non, je t'explique partiellement, frère. Banabella, c'est une gadji, elle est noire, sa famille c'est la misère. Et tu crois quoi toi en fait? Tu sais ce que c'est d'être une fille? D'être noire? Alors viens pas te comparer ici s'il te plaît, poteau.
Arrête de faire la victime avec moi. Tu crois que je sais pas, si, tu crois, c'est pas ce que c'est le racisme? Tu crois que tu vas me l'apprendre? Tu crois qu'il y a pas du racisme envers les arabes en fait?
Quoi? Avec ta tête de poil de carotte là? À d'autres.
En fait c'est quoi? C'est toi le raciste? Non mais sérieux, Djenéba, tu crois quoi si nous on a décidé de faire ça, de bosser avec les gosses? Tout ça, c'est que j'ai quand même minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi, c'est invivable. Quoi, si t'es sûr de toi que ces enfants, ils auront aucune vie, autant te suicider tout de suite, je sais pas, frère.
C'est ce qui fait que je me lève tous les matins.
Youssef, c'est Idir Azoughli, il faut donner son nom, parce qu'il est tellement génial dans ce film. Ça vous parle, ce qu'elle raconte, Amel Bent?
Oui, bien sûr, ça me parle. Et c'est le genre de raisonnement qu'on peut avoir quand on a grandi dans un quartier un peu loin des centres-villes où on a l'impression que tout se passe. On rêve de cet ascenseur social, on a vu les grands frères, les grandes sœurs avant nous. On sent à la fois qu'on a cette force et peut-être quelque chose en nous de différent pour briser ces murs et peut-être aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et en même temps, il y a cette réalité qui est de cette condition sociale, ce racisme qui existe et on ne sait pas en fait, est-ce qu'on va réussir à traverser, à passer cette passoire en fait. Mais on est conscient des... Mais ce que j'aime bien en tout cas, c'est que ces deux personnes qui viennent du même endroit, qui parlent le même langage, mais il n'y a pas la pensée unique. Lui, il croit, elle, il croit moins. Ouais. Et j'aime bien qu'on raconte avec justice, encore une fois, qu'il y a ce débat, même en interne, en fait. Il y a ceux qui disent c'est foutu parce qu'on vient de là, et il y a ceux qui disent non, c'est pas foutu. Sinon, il se passe quoi, là? Viens, on avance, viens, on se bat. Et c'est plutôt réaliste.
Chahi, elle vit un peu un petit Roméo et Juliette, quand même. Elle, jeune fille juive qui est amoureuse d'un musulman, où on se rend compte que c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible.
Enfin, on se rend compte. En tout cas, elle subit le poids des injonctions familiales. Elle est écrasée sous ce poids-là. Son frère est hyper possessif et tyrannique et il l'épie. Et il va juste qu'à lui faire passer un test de virginité.
Ouais.
C'est sûr que ça abîme sa relation avec Ismaël.
Chirelle, vous connaissez des jeunes couples comme ça?
Oui, j'en connais plein.
Ouais, et alors?
Qui sont juifs, juives, musulmanes, même chrétiennes.
Ça se termine comment?
Comme Shai et Djenéba, la plupart. Après, il y en a qui arrivent... comme Shai Ismaël, pardon.
Ouais.
Mais après, il y en a qui arrivent, comme, enfin, il y en a qui arrivent à passer le cap, mais en mettant sa famille à dos, en ayant la force de la mettre à dos, et même des fois de briser plusieurs relations, que ce soit avec la maman, le papa, ou les frères, les sœurs, ou même les oncles et tantes qui se mêlent parfois, beaucoup.
Ouais.
Mais la plupart du temps, c'est vrai que j'en connais beaucoup qui n'ont pas réussi. Par peur de mettre sa famille à dos, du coup. Parce que, en fait, c'est ou la famille, ou ton amour. Donc, on choisit la partie la plus... comment on dit là où tu sais que t'es en sécurité, où te lâcheront
la
jamais,
plus safe,
en fait.
Ouais.
La plus safe, ouais.
Tout ces thèmes étaient importants, entre les rires, etc. Il fallait parler de ça, la fatalité sociale, du racisme, de la découverte des corps, de l'interrogation qu'elle peut avoir sur un ou une monitrice. En fait, ils ont un regard beaucoup plus ouvert que le nôtre, non, ces enfants?
Oui, alors c'est vrai que nous, avec Lise, pendant ces périodes d'écriture, où on passe beaucoup, beaucoup de temps à les côtoyer en immersion dans les centres. On a fait centre aéré, colonies, ateliers pendant les vacances. On se rend compte qu'il y a tous ces sujets qui émergent et en même temps avec une espèce de belle naïveté. Enfin, il y a quelque chose où le regard n'est pas encore... perverti par le monde adulte.
Je préfère candeur, non, que naïveté.
Oui, ouais. Candeur. Mais parce que pour moi, la naïveté, c'est beau aussi.
Oui.
Mais oui, une certaine candeur. Et il se trouve que pendant une immersion, on a rencontré un animateuriste qui s'appelle Naël.
Vous lui rendez hommage.
Avec ce rôle. Et en fait, les enfants étaient beaucoup plus ouverts à la discussion et même hyper curieux. Ça a même insufflé quelque chose, une espèce de... Un message de tolérance dans toute la colo.
Ouais,
mais Shirelle et Fanta, qui étaient animatrices stagiaires pour l'écriture du film, se questionnaient beaucoup plus. Et on s'est dit, ah ouais, c'est quand même hyper intéressant.
Comme ce film est hyper intéressant.
Et drôle.
Et drôle,
il faut le dire.
Il faut
insister sur la drôlerie, hein, quand même.
Vous restez avec nous. Le film est sorti, il s'appelle Ma Frère. Il est sorti mercredi. Lisa Coca, Roman Guéret, Amel Bent, Shirelle Nataf. On se retrouve après Curtis Harding, The Power.
Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just leave your light and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is releasing your love, will increase in the power. We'll show your love light.
On aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
Eh bien, on va parler des films qui sortent en même temps que Ma Frère cette semaine. On va commencer par Les Échos du Passé de Masha Chinsky. C'est son deuxième film et le premier à sortir en France. Quatre jeunes filles à quatre époques différentes, Alma, Erika, Angelika et Lenka, passent leur adolescence dans la même ferme au nord de l'Allemagne. Alors que la maison se transforme au fil du siècle, Les Échos du Passé résonnent entre ses murs. Malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répondre. C'est sûr, une cinéaste est née, pas n'importe laquelle, dans la veine, peut-être pour la rugosité de Haneke, mais surtout de Jane Campion pour la sensibilité, la sensualité, le filmage des corps. Une façon sublime de tisser en images les fils qui relient ces femmes à travers le temps, la violence de leur époque et la douleur en héritage.
Oui. 149 minutes quand même, mais 149 oui. minutes dans une ferme au début du siècle passé.
4 générations quand même. Hein.
4 générations, il faut le temps. Des périodes différentes, jamais vraiment datées. Alors on est dans le film comme dans un labyrinthe.
C'est pas facile.
Il faut se raccrocher à des objets, une image, un personnage, la couleur des cheveux, la relation familiale. On tente de comprendre où on est, quand on est, avec qui. Et le tout avec quand même une profusion d'effets visuels très 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 esthétisants. On se croirait un peu effectivement dans le ruban blond de Haneke, avec les photographies de Sanders, un peu aussi dans un IMAT désarticulé, temporellement au moins, beaucoup chez Bergman. Ce sont évidemment des références écrasantes pour une variation qui peut laisser indifférent.
C'est un film de fantômes, en fait. C'est des fantômes féminins. Faut
y croire.
Father, Mother, Sister, Brother. C'est le film de Jim Jarmusch avec, s'il vous plaît, Tom Waits, Adam Driver, Kate Blanchett, Charlotte Rampling, Vicky Cripps, Lion d'or à Venise. À sa plus grande surprise, à celle de Jarmusch et un petit peu, peut-être, à la nôtre. Trois histoires qui parlent des relations entre des enfants adultes et leurs parents, quelque peu distants, et aussi des relations entre eux dans la même veine, un peu paresseuse, de Night on Earth ou de Coffee and Cigarettes, minimalisme des situations, superficialité des enjeux malgré de grands acteurs, et où le vernis ne craque vraiment jamais, Laurent. Pourtant, on parle de famille.
Oui. La question, c'est peut-on être déçu par un film de Jim Jarmusch? Oui, d'autant plus que c'est pas la première fois, et d'autant plus aussi que ça remet pas en cause le plaisir de cinéma quand on a vu d'autres de ses films. Voilà. Et alors, disons que cette fois, rien ne fonctionne vraiment dans ces trois variations sur la famille. Tout s'enchaîne mécaniquement, sans grâce. Les dialogues vides de sens, les longs plans sur les routes de campagne américaines ou sur les rues de Paris, les silences interminables. On s'ennuie assez fermement en se demandant où Jarmusch veut aller. Et le film terminé, on se le demande toujours.
Un grand doc très essentiel qui s'appelle Monsieur Mr. Nobody Against Poutine de David Borenstein et Pavel Talankin. Alors que la Russie lance son invasion à grande échelle en Ukraine, les écoles primaires de tout le pays sont transformées en centres de recrutement pour la guerre. Confrontés au dilemme éthique de travailler dans un système défini par la propagande et la violence, un enseignant courageux filme ce qu'il se passe réellement. C'est un film clandestin, courageux, sur le lavage de cerveau et l'embrigadement des petits écoliers russes réalisés au péril de sa vie. Il a d'ailleurs dû fuir la Russie depuis, Laurent.
Oui, c'est un film absolument d'utilité publique et géopolitique. Il faudrait que vraiment tout le monde le voit pour voir ce qui se passe en Ukraine et voir aussi la façon dont effectivement un dirigeant politique, et pas n'importe lequel, se permet comme projet, non pas d'embrigader les adultes de son pays, parce qu'au fond, ils le sont déjà, mais d'embrigader ses enfants. Et là, ça devient absolument terrible. On peut faire évidemment des comparaisons avec d'autres périodes noires de l'histoire, mais la façon dont crûment, en plus, Poutine le dit face caméra, que ce sont ses cibles à lui, les enfants, et l'intervention de la Légion Wagner dans une salle de classe, avec des fusils, avec tout ce qu'il faut pour tuer des gens, et la façon dont il le montre aux enfants, c'est absolument glaçant. Il faut impérativement aller voir ce documentaire.
Monsieur Mr. Nobody Against Poutine. Pile ou face de Alessio Rigo, de Reggie et Matteo Zoppis à l'aube du XXe siècle. Le Wild West Show de Buffalo Bill arrive en Italie pour vanter le mythe de la conquête de l'Ouest. Après un rodéo meurtrier et un baiser volé, Rosa et son cow-boy d'amant s'enfuient dans la nature italienne, poursuivis par Buffalo Bill, un film construit autour d'une légende, donc portrait surtout d'une femme et de son émancipation. Elle est incarnée par Nadia Tereskevich, une parodie surtout de western italien, Laurent.
Oui, alors c'est le duo gagnant, les réalisateurs d'un film déjà déjanté et déjà réjouissant qui s'appelait La légende du roi crabe. Oui. Cette fois, ils investissent le western, ses codes, ses origines et son spectacle fondé par Buffalo Bill, vous vous rappeliez, avec ce qu'il faut évidemment de rupture, en confiant par exemple la figure principale non pas à un cow-boy mais à une femme qui se débarrasse de son mari en le tuant dès le départ, ce qui est un très très bon point de départ évidemment, avec la belle trouvaille en plus de faire courir tout au long du film des chansons, mais qui ont un vrai sens narratif et qui éclairent le film par leurs paroles et par leurs propos. Le charme opère vraiment et la fin, dont je ne dirai strictement rien, est absolument baroque.
Les Lumières de New York, premier film de Lloyd Lee Choi, lui arrivé en Chine, de Chine à New York avec le rêve d'ouvrir son restaurant et sa femme et sa fille qui le rejoignent. Un film digne, comme son anti-héros dans sa quête désespérée. La dignité quand il ne reste rien d'autre à espérer. Pas de pathos dans cet autre New York insalubre.
Oui, alors on pourrait facilement dire que c'est, en lisant le synopsis, que ce n'est au fond qu'une version américano-chinoise de la très remarquable histoire de Suleiman. Ben, ça serait oublier un petit peu la singularité de ce film-là, qui est effectivement un portrait en demi-teinte de son héros, ou plutôt des façons ambiguës parfois qu'il a de se comporter, et qui fait de lui aussi un anti-héros. Il n'est pas toujours très très honnête, et en même temps il refuse à sa fille une quelconque malhonnêteté. C'est dans ces paradoxes-là que le film tient le principal de son propos, et le bouillonnement épuisant d'activité trouve dans ces moments-là aussi une façon très très belle d'éclairer New York, comme le titre l'indique, les lumières de New York.
C'est intéressant parce que dans Suleiman aussi, Suleiman mentait pour y arriver.
Bien sûr.
Donc ce ne sont pas des héros
non.
Toujours positifs.
Absolument.
D'où l'intérêt de ces films.
Ouais.
Tout va bien, c'est un premier doc du prod Thomas Ellis. 5 adolescents entre 14 et 19 ans, il y a beaucoup d'adolescents dans cette émission, ont traversé des déserts et des mers seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l'espoir brûlant d'une nouvelle vie.
Oui, alors, c'est un film avec quand même infiniment de grâce sur ces 5 ados.
Ouais.
Et on leur demande non plus tellement, parce que c'est la question récurrente, pourquoi ils sont venus, mais comment ils sont arrivés, ouais. Mais pourquoi ils sont arrivés, ce qui est une question beaucoup plus essentielle. Évidemment, les réponses dépendent des individualités. Il y a notamment ces deux frères, dont l'un est mutique parce qu'il a été traumatisé par un événement, et l'autre lui sert en permanence de truchement. Et puis ce coup de fil entre une mère et une fille au-delà de la... avec la Méditerranée entre les deux, qui évidemment ne se comprennent pas complètement, on se dit qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour que l'accueil soit à la hauteur des attentes.
Sans commentaire, et filmé sur 2 années d'ailleurs.
Absolument.
Ce doc, et on termine avec une...
L'Académie des Secrets, un petit mot.
Oh pardon, oui.
Non, mais oui. Un petit mot pour dire que combien la figure de Jean-Louis Schaeffer, qui est un historien de l'art à l'érudition sidérante et disparu en 2022, combien cette figure est magnifiée par ce très très beau documentaire, l'Académie des Secrets. Son auteur a suivi Jean-Louis Scherrer dans ses derniers mois de vie. On y voit Fragonard, Bresson, Gréco, Dreyer. Enfin bref, c'est une très très belle leçon de cinéma et d'art.
Un peu abscon quand on ne connaît pas Jean-Louis Scherrer.
Ah oui, mais l'intelligence, ça fait du bien de temps en temps.
Il y en a partout.
Oui, on en mange un.
Le Sud, de Victor Erice, ça c'est une reprise.
Oui, belle reprise du second long métrage de ce cinéaste espagnol, avec cette histoire qui se passe sous Franco en 1950. C'était le premier volet d'un diptyque qui, hélas, ne verra jamais le jour. Et là, c'est plutôt la mélancolie qui dominait dans ce premier volet.
Il nous reste 2 minutes pour 4 cadeaux.
Allez, 4 cadeaux. D'abord, pour vous, Lisa Coca, on a pensé très féminin pour ces cadeaux. Un film qui est sorti, La femme qui en savait trop, et Dieu sait si ce qui se passe en Iran en ce moment donne raison de voir ce film qui paraît chez Jour de Fête en DVD, en Blu-ray. C'est le portrait d'une femme contre la loi de Téhéran, en quelque sorte, pour aller très vite. Et le scénario est juste de Jaffar. Panahi, c'est pas négligeable. Pour vous, Romane Guéret, je sais pas si vous avez vu ce documentaire paru cette année qui nous avait beaucoup plu, Fragment d'un parcours amoureux, qui est de Chloé Barreau. Depuis l'âge de ses 16 ans, elle filme ses partenaires amoureux. C'est une démarche intéressante qui
n'est pas... Et elle demande à quelqu'un d'autre de les
exactement.
Leur faire raconter.
Et ça merci devient une beaucoup. Confrontation passionnante.
J'ai très envie de le voir.
Ah bon, mais tant mieux. Ah. Eh ben, tant mieux, c'est chez Destiny. Destiny, pardon. Pour vous, Chirelle, on va vous donner un film qui est passé presque assez inaperçu en 1963, qui s'appelle Une femme est passée. Alors, c'est avec une actrice que vous ne connaissez pas. Le film est de Juan Antonio Bardem, qui est un Espagnol. Mais c'est une actrice française qui s'appelle Corinne Marchand.
Ah ouais.
Qui a joué, son plus beau rôle était dans Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda. Mais là, elle trouve un autre personnage féminin qui, je pense, vous touchera par sa force et sa puissance.
Ah, merci voilà. beaucoup.
C'est chez Tamaza, Une femme est passée. Pour vous, Amel Bent, une petite collègue, chanteuse-actrice, qui s'appelait Anna Karina, oui. parce qu'elle elle a joué dans une incroyable comédie musicale, tournée par Pierre Koralnik, mais surtout mise en musique par un certain Gainsbourg. Et les chansons Boomerang, par exemple, ou Sous le soleil exactement, ont été créées dans cette comédie musicale. C'est Malavida qui sort avec beaucoup d'intérêt ce Blu-ray. On vous recommande chaudement Anna et cette comédie musicale.
Merci beaucoup. Ma frère est sorti depuis mercredi. Merci Romane Guéret, merci Louisa Coca, merci Amel Bent.
Merci à toutes les quatre.
Merci Chirelle Nataf.
Merci.
Merci à notre équipe aussi, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy pour la préparation, Olivier Rioux pour la programmation musicale et aux manettes ce matin, Tiffany Battistel. Merci. Au revoir.
Salut.
Salut.
Au revoir.
Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.